Chers amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Le forum de ce soir s'intéresse à un sujet intime qui est spécifique à la gente féminine. Les menstruations, plus spécifiquement menstrues et valeurs morales. Au Niger, parler de menstruation relève d'un vrai tabou dans une société nigérienne fidèle à ses valeurs religieuses et souvent trop conservateurs. Alors, comment parler des menstruations sans aller contre les valeurs morales? C'est la question qu'on se pose dans le forum de ce soir. Et pour en parler, je reçois Madame Arimi Zouera, elle est parent et éducatrice. Je reçois également Ide Baza Abdourahman et enfin Adokon Pacha et Sodon Ismaël. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Ismaël, je vais commencer par vous. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la menstruation sur le plan médical, sur le plan génétique, j'allais dire?
Donc, quand on parle de menstruation, c'est un phénomène physiologique qui se caractérise par des saignements dus à l'élimination de la muqueuse utérine qui normalement, au cours du cycle menstruel, s'hypertrophie. Donc, lorsqu'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse utérine chute et c'est ça qui sort sous forme de menstrues et qu'on voit sous forme de règles chez la femme. Et elle va de la période de la puberté à la ménopause.
Alors, dans le français, très simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que je comprends que c'est des termes vraiment médicaux, mais de façon très simple. Il y a certains qui parlent d'un déchet que la femme doit évacuer périodiquement. Concrètement, vraiment avec des mots simples, comment vous pouvez nous expliquer la menstruation?
Donc, avec des mots simples, je dirais juste que c'est l'élimination par une ouverture naturelle, qui est le vagin chez la femme, donc de certains éléments qui ne sont plus indispensables. Puisque dans la vie de la reproduction de la femme, l'hypertrophie de la muqueuse utérine prépare la femme à avoir une grossesse. Alors, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, donc cette muqueuse qui s'est hypertrophiée doit chuter, et c'est cette chute de cette muqueuse-là qui entraîne ces saignements. Donc, voilà.
Et ça peut durer de combien de jours, petit rappel?
En moyenne, ça fait 5 à 7 jours. Donc, et au max 12 à 14 jours.
D'accord. Voilà. Alors, les parents, les enseignants sont au premier plan quand l'adolescente arrive à ce niveau. Donc, dans la croissance de l'adolescente, les parents, les enseignants et enseignantes ont un rôle important à jouer. Alors, madame, à quel âge peut-on parler de menstruation avec sa fille?
Bonjour, cher Olivier. Oui, donc le thème dont vous parlez aujourd'hui, vraiment, c'est un thème d'actualité. Vraiment, les menstruations, il faut en parler. Certes, en tant que parent, on peut attendre, par exemple, quand les seins chez la fille, les seins commencent à pousser. Là, à ce moment, donc peut-être on peut commencer toutefois avec la jeune fille à lui parler. Mais bien avant, déjà, dans chaque maison, parfois, on peut avoir des sœurs aînées avant cette petite sœur. Donc, ce qui fait qu'elle est déjà préparée à ça. Donc, avec l'autre sœur, donc l'aînée. Donc, de là, en tant que parent, il faut parler donc des menstruations. Dès que les seins commencent à pousser, il faut en parler. Donc, il faut attendre. Là, c'est une période que tu es en train de passer. À un certain moment, donc, les règles vont commencer à venir. Voilà. Quand les règles vont commencer à venir, voilà ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, les enfants sont préparés en avance. Mais certes, on peut avoir des cas où les enfants ne sont pas préparés à ça. Donc, certains, parce que les parents, en tout cas, s'absentent. Donc, à l'éducation sexuelle avec les enfants. C'est ce qui fait que certains enfants apprennent ça dehors. Certains enfants encore, il faut au moment où ça leur arrive et ça devient. Parce que nous, autant si nous prenons les parents, en tout cas, il n'y avait pas ça. Avec les parents, on ne parle pas de cela. C'est comme si c'est du tabou. La première fois que la jeune fille voit ses règles, là, elle va se cacher. Elle se cache, elle a tout un calcul à faire, à dire, elle ne sait pas comment.
Elle est un peu surprise, j'allais dire.
En tout cas, surprise, en voyant le sang, qu'est-ce qu'elle va aller dire? Parce qu'on a tendance de dire, dès qu'on voit du sang, c'est là, veut dire que tu fais quelque chose avec les garçons, ceci, cela, donc, etc. Parce qu'il y a des parents aussi, dès qu'ils voient ça, ils vont commencer à dire, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Au lieu de chercher à appeler l'enfant, comment on appelle ça?
À l'orienter,
très bien, à l'orienter. Lui dire voilà, il y a des enfants, dès là déjà, ils ont eu peur, donc de telle sorte qu'ils ne savent même pas comment expliquer cela, comment comprendre cela.
Vous avez parlé d'orienter, on va encore un peu orienter ce débat.
Oui.
Maintenant que le décor est planté, nous allons avancer avec des chiffres. Okay, en 2020 au Niger, seulement 30% des filles ont entendu parler de menstruation avant leur première règle. C'est selon une étude soutenue par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance au Niger. Baza, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes responsable d'une association, une coalition d'associations. Aujourd'hui, quand vous écoutez ces chiffres, quelle lecture vous faites?
Merci Olivier pour d'abord la question et salut chers invités. Donc les chiffres parlent, donc c'est évident. Donc quand on parle de menstrues, donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc on sait que au Niger, donc généralement, donc cette question, bien que aujourd'hui beaucoup des rideaux sont tombés, mais quand même la question reste encore tabou, parce que d'un autre côté, donc les parents ont démissionné de leur rôle, donc qui est celle de pouvoir éduquer donc l'enfant, donc ou bien la jeune fille, donc en matière de menstruation. Donc aujourd'hui la majorité de ces jeunes filles, avec même les chiffres, vous avez dit 30%, avec les chiffres, donc on a vu la sous-représentation aujourd'hui, donc de cette question-là, donc dans le tissu familial, donc comment les parents abordent cette question avec les jeunes filles. Donc la majorité des filles qui ont peut-être eu cette éducation, cette orientation avant leur première règle, l'ont eu généralement pour celles qui ont des grandes sœurs, qui ont déjà vécu ça. Donc les grandes sœurs ont vécu ça tout naturellement. Les parents ont démissionné, on ne leur a pas parlé. Donc c'est lorsqu'elles ont vu ça, c'est la panique, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Donc mais aujourd'hui, avec le temps, les choses ont commencé à changer. Avec aujourd'hui la commercialisation des serviettes hygiéniques, tout ça là. Donc, on essaye aujourd'hui, en tant qu'acteur de la société civile, d'attirer l'attention des parents qui ont démissionné de leur rôle, de pouvoir le faire. Parce que certes, aujourd'hui, les acteurs sont en train de faire ce travail sur le terrain. Parce que aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à travers des campagnes, donc des sensibilisations, on attire donc l'attention des jeunes filles, on les sensibilise sur qu'est-ce que les menstrues et comment avoir un bon comportement sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Aujourd'hui, les chiffres, j'allais dire que c'est vraiment trop peu, si on voit, mais quand même des efforts sont en train d'être faits. Donc, comme je l'ai dit, mais ça reste encore tabou.
Les choses bougent. Mais j'allais dire, les choses bougent, mais timidement.
Les choses bougent, mais timidement, effectivement.
Ce qui m'amène d'ailleurs à m'orienter vers vous, docteur Ismaël. Aujourd'hui, le corps de la jeune fille se prépare à la menstruation. Est-ce que, outre cette préparation du corps de la jeune fille, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour que la jeune fille soit prête pour la menstruation?
Bon, Dieu, il a fait les choses de façon naturelle. On est, on grandit, et dans le processus naturel des choses, le corps de la femme, il est naturel naturellement en train de grandir. Jusqu'à sa première grossesse, la femme n'est pas toujours mature, parce qu'il y a certains organes qui attendent la première grossesse, voire l'accouchement, pour pouvoir être mature. Donc, il y a certains facteurs qui peuvent accélérer la croissance chez certaines jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, on arrive avec l'alimentation, le mode de vie, ce qui fait qu'il y a certaines filles qui voient plus tôt leurs règles. Mais de nature, la femme, tant que l'organisme n'est pas prêt, elle ne verra pas ses menstrues. Donc, s'il y a des facteurs hormonaux, des facteurs environnementaux, l'alimentation, bien d'autres choses qui entrent en jeu, qui viennent concourir à ce qu'elle soit plus prête tôt, alors dès qu'elle est prête, voilà, elle aura ses menstrues. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup pour ces explications. Alors, je me tourne vers vous, Madame Arimi Jouera. Comment vous expliquez cette silence autour de la question des menstruations? Pourtant, c'est quelque chose de naturel, comme vient de l'expliquer Dr Ismaël.
En tout cas, c'est quelque chose de naturel. C'est naturel parce que la fille, dès qu'elle rentre dans la puberté, parce que surtout maintenant, la puberté commence très tôt chez les jeunes filles. Ça commence très tôt. Je ne sais pas comment le dit docteur. C'est compte tenu de l'alimentation, en tout cas OGM là, que nous consommons partout dans nos alimentations. Je dis à ça. Et puis, les enfants grandissent très vite, ce qui fait que déjà à l'âge de 10 ans, on peut trouver donc certaines filles qui vont commencer à avoir leurs règles. Voyez. Donc, ce qui fait qu'à partir de 9-10 ans, la jeune fille qui commence les règles, là, s'il n'y a pas de suivi, qu'est-ce qui va se passer?
Pourquoi il y a toujours cette loi du silence autour des menstruations?
Vous savez, comme on le dit, il y a la religion qui est là. Oui. C'est surtout ça. Parce que maintenant, même avec ton propre enfant, parler de ça, en tout cas, c'est du tabou. Dès que tu commences à ça, c'est comme ce qu'on voit directement. Ah, tu cherches à gâter cet enfant-là. Parce que nous, par exemple, moi, j'enseigne l'économie familiale dans les écoles. Donc, nous parlons de cela, de la sexualité. Mais parfois, on se trouve avec des parents qui portent plainte contre ça. Parce qu'ils disent, parfois, s'ils prennent le cahier d'un élève, ils vont voir comment nous parlons de la sexualité, des règles de ceci, tout ça. Là, il y a certains parents qui voient ça comme si nous sommes en train de pousser les enfants là à autre chose. Or, nous, dans le cadre, pourquoi cet enseignement? Parce que nous pensons que l'âge là, qu'on parle de ça avec à nos enfants ou pas, ces enfants-là en parlent. Entre eux, ils parlent de la sexualité. Surtout maintenant avec les téléphones. Autre chose. Donc, il faut en parler aux enfants. C'est mieux qu'entre eux qu'ils apprennent ça. Mais avec la bouche donc, d'un éducateur, de quelqu'un un peu supérieur, donc ils vont apprendre plus. Donc, c'est mieux que leur propre découverte.
D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais ajouter quelque chose. Je pense que, en fait, c'est pas la religion qui nous l'interdit, mais c'est une mauvaise compréhension, en fait. Je me rappelle lorsque je faisais le cours du FIC avec mon oustaz, il nous parlait de ce sujet, mais certains le prenaient à la légère. Ils disaient, mais vous êtes tous des hommes et vous serez appelés à cette responsabilité. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension de la religion qui fait que on pense qu'en parler, c'est préparer l'enfant. Au fait, notre problème dans notre société, c'est qu'on pense que en laissant l'enfant aller devant le fait accompli, il saura se gérer. Or, il faut préparer l'enfant. Moi, j'ai l'habitude de dire que il faut faire connaître à l'enfant le bien et le mal et le laisser avec sa conscience.
Merci beaucoup. Alors, Baza, peut-on avoir accès facilement à une information sur la menstruation quand on est en ville ou en campagne? Parce que vous, si tu le permets, tu reviens de Dosso récemment pour une formation allant dans le même sens. Ce qui veut dire que vous rencontrez des jeunes, qu'ils soient en ville, qu'ils soient aussi dans les campagnes. Est-ce que le milieu conditionne un peu notre appréhension, notre compréhension des menstruations?
Bon, effectivement, le milieu donc joue un rôle très important donc pour la compréhension, parce qu'aujourd'hui, les degrés de compréhension divers, que la fille soit en milieu rural ou bien en milieu urbain. Parce qu'aujourd'hui, si une fille est dans le milieu rural, difficilement pour elle d'ailleurs, si ce n'est pas les parents qui en parlent ou bien avec ses sœurs, qu'elle ait une autre information. Parce qu'aujourd'hui, l'avènement des téléphones et de l'Internet, si en milieu rural, ça n'existe pas, la fille ne peut pas s'informer. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont mises sur les réseaux sociaux qui permettent à la fille de s'informer. Donc, et effectivement, en tant qu'acteur de la société civile, on fait donc la dissémination de ces plateformes-là pour que les filles puissent avoir l'information au cas où les parents donc démissionnent de ces rôles-là, qui est celui d'éduquer leur enfant par rapport à ça. Et l'État du Niger aussi a beaucoup contribué à ça, parce qu'aujourd'hui, si on voit l'éducation à la santé de la reproduction des adolescents et jeunes qui est aujourd'hui existant au secondaire à travers les disciplines DFS, comme madame est enseignante DFS, et aussi géographie SVT. Donc, ces enseignants-là ont été formés donc sur l'éducation à la santé de la reproduction, et c'est incorporé dans leur module. Donc, ils enseignent ça aux enfants donc à travers un paquet donc d'informations à donner à l'enfant en fonction du niveau donc de l'enfant. L'information qui est donnée à une fille qui est en sixième n'est pas la même chose qui est donnée à une fille qui est en quatrième. Donc on prend en compte donc ces paramètres-là d'âge donc pour rester donc dans le cadre de donner à l'enfant l'information qui convient à sa catégorie d'âge. Donc, et de l'autre côté, c'est le droit donc à l'enfant d'être informé. Donc si aujourd'hui on laisse donc ces enfants-là à découvrir des choses dans la rue, on n'est pas sûr donc de l'information qu'ils sont en train de recevoir est la bonne. Donc il est du devoir des parents, mais aussi des acteurs donc qui sont sur cette thématique de santé reproductive, de pouvoir informer les jeunes filles donc pour leur donner les vraies informations, parce qu'aujourd'hui on sait que la majorité sont en train de se ressourcer sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai c'est la bonne information. C'est pour cela que les éducateurs qu'elles sont donc sont mis en contribution à travers le programme de SRAG là au Niger, donc parce qu'on pense que après les parents, donc la personne qui est à côté de l'enfant pour l'éduquer, c'est l'enseignant. Donc quand on donne à l'enseignant les capacités donc à pouvoir transmettre à l'enfant des informations sur sa sexualité et pour qu'il puisse se préparer à une vie donc assez propre et paisible, donc pour qu'il puisse être responsable. Parce que quand on prépare l'enfant, on lui dit à chaque étape de ta vie, il y a des responsabilités à prendre. Mm-hmm. Donc tu te prépares à ça et tu deviens responsable vis-à-vis de la communauté dans laquelle tu te trouves.
Alors, Madame Arimi Jouera, on parlait à l'instant du rôle de l'enseignant. Moi, je vais encore aller un peu plus loin pour demander aujourd'hui quel rôle le milieu social peut jouer sur l'éducation à la menstruation ou bien l'éducation à l'hygiène menstruelle. Quand je parle du rôle social et les enseignants et ce qu'on voit dans sur les réseaux sociaux, bien évidemment aujourd'hui, quel rôle tous ces facteurs-là peuvent jouer sur la compréhension de la jeune fille?
Bon, le rôle qu'il a à jouer, que ce soit sur le plan éducateur ou social, donc c'est toujours de parler de ça. De parler, de ne plus prendre ça comme étant un sujet tabou. Donc, que ce soit s'il y a une masse, il faut toujours parler de menstruer ou bien de dire voilà. Parce que demain, dans l'éducation, si nous prenons les cas de la religion, dans les Makaranta et autres, normalement, il y a des femmes, j'ai vu à un certain, en tout cas à une Makaranta là, j'ai vu à des femmes qui sensibilisent les jeunes femmes, surtout les jeunes filles, sur ce plan. Donc, le pas d'éducation, parce que la jeune fille, pour pouvoir suivre même la jeune fille, pour qu'elle soit, si on dit si elle est en bonne santé, elle est ceci, c'est les règles, en commençant par les règles. Parce que toi, une fille, une mère, tu ne suis pas la fille, tu ne sais même pas quand est-ce ta fille a commencé à faire ses règles. Quand est-ce maintenant, elle voit ses règles. Ce qui fait que la fille peut toutefois tomber enceinte sans le savoir. Parce que tu n'as jamais suivi, en tant que mère, tu n'as jamais suivi ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver des femmes, des mamans à qui, si tu demandes aujourd'hui, ta fille là, quand est-ce qu'elle a commencé tes règles? Il y a certaines mamans qui vont te dire, moi, je n'ai jamais su que ma fille a commencé les règles. Donc, vous voyez. Donc, c'est des choses vraiment, une mère doit savoir quand est-ce ta fille a commencé, mais quand est-ce même elle va revoir ses prochaines règles. C'est ça, si nous parlons du cycle menstruel. Il faut très bien connaître donc son cycle menstruel. Parce que je vis dans certains trucs des enfants, des filles, ils ont dans leur application, dans leur portable. Tu vas voir que ça va leur même donner, signal pour dire que le jour de menstruer ou bien le jour de l'ovulation même. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très important. Donc, ceux qui n'auront pas cette chance-là pour être sur les portables, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment leur apprendre. Le nombre de jours et connaître aussi son cycle, c'est très important. Connaître son cycle. Le cycle, c'est savoir, donc, ça part donc du premier jour des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Donc, ça, c'est très important de le connaître parce que le mois prochain, je vais savoir quand est-ce que j'aurai voir mes règles pour pouvoir me préparer. C'est ce qui amène certaines filles, ce qui amène à avoir certains complexes. Tu pars à l'école sans le savoir, sans te préparer. Tu t'élèves et. Voilà,
tu as
le centre et tu es surprise. Donc, vous voyez. Donc, mais si tu arrives à connaître ton cycle, là, tu peux savoir d'ici quand est-ce que je vais revoir mes règles prochaines. Là, en ce moment, je vais me préparer à avoir donc mes cotons, tout ce qu'il faut dans mon sac. Donc, vous voyez. Mais si ça, on prend ça comme étant un hasard, ça ne peut pas aller. Donc, c'est pour ça ici, j'attire l'attention surtout des jeunes filles pour que chaque fille doit connaître son cycle menstruel. Dès qu'on commence à voir, donc j'ai dit chaque fois, je leur donne un exemple, de marquer la date. Le premier jour que tu as commencé à avoir tes règles, marque cette date.
On va revenir sur ça, madame. Et surtout, je reprends vos mots, avoir ces règles, c'est pas du hasard.
C'est pas du hasard.
C'est quelque chose qui doit venir chaque mois.
Oui.
Et si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème.
C'est ça qu'il y a un problème. Très bien.
Selon plusieurs sources que j'ai consultées dans la préparation de ce forum, les normes sociales discriminatoires, les tabous culturels et religieux, la précarité et le manque d'informations sont entre autres des raisons pour lesquelles les filles et les femmes sont en marge en matière de santé et d'hygiène menstruelle. Pour vous aujourd'hui, présents sur ce plateau, quels pourraient être les autres facteurs qui freinent l'accès aux informations utiles pour les femmes et les filles, s'agissant notamment de leur hygiène menstruelle? Je commence par vous, docteur.
Bon, pour ma part, je pense que, à part tout ce que tu viens de dire, je pense que les gens pensent, on dit souvent que en matière de santé, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de honte. Il faudrait qu'on arrive à incarner cela dans notre société. Parce que, tu vois, un patient qui vient en consultation, il a honte de te dire ce qu'il a comme signe. Et ça, c'est vraiment, je pense que il faut qu'on dépasse cette étape-là. Et si nous dépassons cette étape et que nous arrivons à pouvoir s'ouvrir au monde, je pense que on peut avoir facilement l'accès à l'information. Parce que qui ne pose pas de questions n'aura pas de réponse. Aujourd'hui, certains parents bloquent leurs enfants les empêchent la communication, même dans la maison. Je vois souvent certains parents même qui disent aux garçons, tu n'as pas le droit de t'approcher des filles de la maison. Mais un garçon, il peut facilement expliquer à sa sœur c'est quoi son cycle menstruel. Parce que souvent, il y a des liens qu'on n'arrive pas à séparer. Quand vous prenez dans la maison, quand vous regardez un garçon et une fille dans la maison, vous verrez qu'ils s'entendent beaucoup mieux qu'entre deux sœurs. Et c'est aux parents, c'est le devoir des parents d'arriver à mettre leurs enfants en confiance. Arriver à dire à leurs enfants que nous sommes là, nous sommes présents à toutes les étapes de votre vie. Quand vous avez besoin, approchez-vous. Et c'est comme ça qu'on doit penser et que c'est comme ça les parents qui, généralement je dis, c'est peut-être les gens ne sont pas préparés à la responsabilité de parents.
C'est quand même fort.
Oui, être parent, c'est une lourde charge, c'est une responsabilité. D'accord. Même sur le plan religieux, quand on le prend, c'est une responsabilité à laquelle nous jouons, mais vraiment qui pèse lourd dans la balance. Mm-hmm. Parce que demain, quand on te posera la question, qu'est-ce que tu as laissé comme héritage?
Tu seras le seul à répondre.
Tu seras le seul à répondre.
Super.
À cette question.
Et nous, voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous informer. Et je crois que c'est l'objet de ce forum de ce soir. Alors, Baza, tu as envie d'ajouter quelque chose à cette question?
Oui, bon, effectivement, ce qu'il dit, ce n'est pas faux, c'est des stéréotypes. Il va falloir qu'on casse ces stéréotypes pour pouvoir donner donc cette chance-là à la jeune fille aujourd'hui de pouvoir jouir de ses droits, donc parce que c'est un droit pour elle, donc d'être informée pour se préparer à cette vie-là, parce qu'aujourd'hui la majorité des jeunes filles, en tout cas ici au Niger, donc ont découvert leurs premières règles là naturellement. Ce n'est pas des parents qui les ont conseillés. Vous avez vu les chiffres alarmants donc de l'UNICEF, 30%, donc c'est des chiffres alarmants qui nous montrent les degrés donc de démission des parents dans cette responsabilité. Et aujourd'hui la jeune fille qui n'est pas préparée donc aujourd'hui à accueillir sa première règle et aussi à dans les mécanismes de gestion de cette règle-là, c'est facilement pour cette jeune fille-là de contracter des infections. Et quand il y a infection, il y a aujourd'hui d'énormes maladies qui se viennent. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est des facteurs vraiment sur lesquels on doit jouer et qu'on doit casser ces mythes-là, donc de dire que c'est un sujet tabou. Je pense qu'il n'est plus tabou parce que c'est comme le docteur l'a dit, c'est dit naturel.
Alors, on se demande aujourd'hui la disponibilité des serviettes hygiéniques aussi. Est-ce que cela aussi ne pose pas de problème quand on parle de menstruation de la jeune fille? Je commence par vous, madame, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis filles, machallah.
C'est bien.
Qui me disent que des fois, c'est compliqué pour eux d'avoir le 500 pour aller payer du coton. Est-ce que la disponibilité aussi de ce coton-là, aujourd'hui, ne cause pas de problème aux filles?
Ah, très bien. En tout cas, très bonne question. Parce que moi, pour les jeunes filles, chaque fois, je ne les conseille pas les serviettes hygiéniques là qu'elles veulent acheter. Parce que moi, je leur dis, c'est parce qu'elles sont sales. Elles sont sales. Parce que si vraiment une femme, j'ai dit, le sang là qui sort de la femme, ce n'est pas de la saleté. C'est ce qui prouve qu'elle est en bonne santé. Maintenant, ça, là, nous, autant, c'était un mouchoir. C'était un mouchoir, un pain qu'on va prendre, on déchire et on te donne un morceau. On te donne donc deux, trois morceaux. Après, les règles...
Mais elles vont te dire que je ne suis pas à l'aise.
Mais pourquoi pas, c'est la même chose. C'est mieux que de porter, parce que même la façon dont il porte les serviettes hygiéniques là, c'est pas ça. Tu vas voir un élève qui part à l'école, elle porte maintenant l'éponge là, une serviette, elle peut passer 5 heures de temps sans pour autant changer cette serviette là. Mais c'est sale, ça c'est de l'infection, elle va s'infecter elle-même. Donc vous voyez, donc c'est ça, il faut que les filles en tout cas savent comment utiliser ces genres de serviettes. C'est pas parce que c'est là, je m'en fous, parce que même les serviettes là, il faut voir de quelles conditions même elles sont exposées. On les vend, hein. Chacun, tu vas voir comment ils ont les trucs là, mais c'est pas bien. C'est pas n'importe quel point tu vas acheter. Mais si on n'a pas l'argent, on va se contenter avec ce qu'on a. Chercher une bonne serviette, un bon mouchoir, faire avec. Après, tu laves, tu pars, tu déposes. Mois prochain, encore, c'est comme ça. Nous, c'était avec ça que nos parents nous contrôlaient. Mais maintenant, comme il n'y a pas ça, l'enfant, il finit, il jette ça dans le vide. C'est fini. Donc, c'est pas, la maman ne voit même pas les preuves. Elle ne voit pas les preuves si sa fille, elle a vu les règles ou bien elle n'a pas vu. Donc, voilà.
Ah ouais, donc, c'était aussi un outil de contrôle des
parents. Ah oui, un outil de contrôle. Ah parce que nous, autant, les parents nous suivaient pas à pas. parce qu'on va fouiller dans ton affaire ou bien on va te dire ah moi j'ai pas vu tel truc que je t'ai donné. Tu changes là même, on va te demander pourquoi tu as changé, où est celui que je t'ai donné. Donc vous voyez, moi je veux malgré qu'on parle de ça, nous autant vraiment les parents suivaient même ça plus que les parents.
Et oui, ils suivaient ça à leur manière.
Oui, à leur manière. Ouais, parce que tu vas savoir à quel moment si la fille a des difficultés là-dessus, parce qu'il y a certaines femmes, filles, elles ne sont pas enceintes, mais elles peuvent faire 2 mois, 3 mois sans voir les règles. Voyez. Donc ça c'est quelque chose, donc il faut en parler. Dès que tu remarques que ta fille elle n'a pas vu ses règles et tu sais que ta fille elle n'a rien fait, là c'est d'aller vérifier, hein, d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Donc c'est de ça qu'on peut y remédier à certains problèmes. Super. Mais sinon si on n'en parle pas encore, c'est autre chose. C'est pas forcément la grossesse qui m'empêche de ne pas avoir les règles. Donc il y a certaines circonstances de la vie qui peuvent amener cela.
Docteur, vous êtes la personne la mieux placée, je pense, qui peut justement rebondir à cette phrase de madame, mais on va le faire juste après le rappel des titres. Le forum de ce soir porte bien évidemment sur comment peut-on parler des menstruations sans aller contre les valeurs. Et je suis avec madame Arimi Zouera, parent et éducatrice, Idé Baza Abdourahman, acteur de la société civile œuvrant dans le domaine Adoko Kwacha et Sodok Ismaël, et étudiant en médecine et présent sur ce plateau aujourd'hui pour nous éclairer sur ce que c'est sur le plan médical. Alors, nous étions en train de parler justement de l'absence des règles. Des fois, l'absence des règles n'est pas aussi synonyme de grossesse. Une petite parenthèse pour évoluer sur le thème de ce soir.
Oui, l'absence de règles n'est pas forcément synonyme de grossesse parce qu'il y a des facteurs. Quand on parle du cycle menstruel, c'est un jeu hormonal. Moi, j'ai l'habitude de dire que le corps de l'homme, c'est vraiment un jeu d'hormones, un jeu de certaines, ces substances sont tellement infimes, sont tellement en petite quantité, mais ils ont tellement une valeur importante. Et un déficit en une hormone peut entraîner l'absence de règles. Et cela ne veut pas dire que cette fille est enceinte. Maintenant, il faut chercher à savoir c'est où le problème. Puisque quand on prend le cycle menstruel, il y a plusieurs organes. Il y a l'hypophyse qui est là, il y a les ovaires qui sont là, et il y a l'utérus. Les règles ne sont que la chute de la muqueuse utérine. Alors, si les ovaires ne jouent pas leur rôle, la muqueuse utérine ne va pas se développer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de règles. Si l'hypophyse ne joue pas son rôle, ça veut dire que les ovaires ne joueront pas leur rôle et il n'y aura pas aussi de règles. Donc, il y a plusieurs facteurs et plusieurs maladies qui peuvent empêcher la présence des règles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le thème de ce soir.
Merci beaucoup. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir complété cette information sur la menstruation. Parce que le tout, bah, ça fait partie du thème de ce soir. Baza, aujourd'hui, vous qui rencontrez les jeunes filles, vous qui leur parlez de jour comme de nuit, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que les filles ont cette information complète sur la menstruation comme on vient de l'avoir dans ce forum?
Bon, effectivement, comme tu l'as dit, donc les acteurs de la société civile que nous sommes, donc je disais que je suis membre d'une coalition. Donc cette coalition, c'est une fêtière d'organisation qui œuvre dans le domaine de la santé reproductive et planification familiale. Donc et ces organisations sont permanemment sur le terrain en train de faire leur rôle, effectivement, donc de sensibilisation donc de cette couche-là de la population. Aujourd'hui, on parle de menstrues. Donc on part donc à la rencontre de ces jeunes filles pour qu'elles soient informées. Donc par rapport à la gestion, parce que le fait de voir ses règles est une autre chose, mais la manière dont la fille doit gérer aussi ces règles-là en est une autre. Donc il va falloir informer la jeune fille sur comment elle doit se préparer à accueillir d'abord ses premières règles et comment gérer maintenant. Donc c'est là que aussi les organisations de la société civile la jouent. Un rôle important dans la sensibilisation et l'orientation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont informées de comment gérer donc leur menstrues et d'autres organisations font même de l'offre de services parce que dans les établissements, ils font donc des dons, donc des serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, on voit des serviettes hygiéniques lavables qu'on distribue à des jeunes filles donc pour pallier effectivement à ces problèmes donc d'économie parce que ce n'est pas toute jeune fille qui peut à chaque règle se procurer 500 ou 1000 francs pour acheter du coton hygiénique, mais à travers les serviettes hygiéniques lavables aujourd'hui qu'on met à la disposition de ces jeunes filles. Donc on leur permet de savoir comment gérer ça et comment à chaque utilisation prendre soin. Donc on leur donne un paquet donc minimum donc des services, donc les savons, donc les serviettes, afin qu'elles puissent bien préparer donc cette période là de leur vie. Donc en tout cas c'est on va dire que la majorité en tout cas aujourd'hui des jeunes filles donc ont l'information, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur le terrain à travers donc les acteurs de la société civile qui sont en train de jouer leur rôle.
Madame Marie Mijouera, vous qui êtes de notre génération aussi, de notre génération, vous avez vu en tout cas le discours, la pédagogie, l'éducation sur la menstruation évoluer. Alors, selon vous, aujourd'hui, comment un parent peut aborder le sujet de la menstruation avec sa fille? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des approches pour le faire? Pour nos parents ou bien pour ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent toujours?
Les approches, toujours. La jeune fille, déjà, elle doit être amie à sa maman. Elle est une amie à sa maman parce qu'il faut qu'elle soit proche d'elle. Parce que c'est quand elle est toujours proche d'elle qu'elle peut... En tout cas, qu'elle peut écouter ou bien entendre ce que sa maman va dire. Parce que si elles ne sont pas côte à côte, là, il n'y a pas de dialogue. Là, donc, il faut qu'il y ait un dialogue, en parler. C'est ce qui fait maintenant, si je prends un cas, un autre sujet, si nous prenons les filles, et faire des garçons à tort à travers, c'est normal parce qu'elles ne parlent pas de ça à leurs parents. Donc, c'est tout à fait normal ici, avec, si nous commençons avec les menstruations, il faut que la maman prépare sa fille.
Mais c'est aux parents de créer le dialogue.
Aux parents de créer le dialogue parce que c'est aux parents de donner, en tout cas, c'est comme un mot de passe. Mm-hmm. Ou bien dans un terrain de foot, il faut jeter le ballon, non?
Ouais.
Et il faut.
Ah, madame, elle connaît bien les techniques
donc,
de foot.
Ouais, donc, parce que maintenant, pour l'enfant, elle ne sait pas maintenant. Ouais. C'est la maman qui va commencer le premier jeu. Ouais. Non, ouais. Il faut qu'il y ait confiance. Parce qu'il faut voir, si j'ouvre une petite parenthèse, c'est comme une fille qui a un copain. Elle veut amener son copain à la maison. Et maintenant, elle entend sa maman en train de dire à une copine, « Ah, moi, quand ma fille va amener son copain ici à la maison, quand est-ce que cette fille-là, elle est grande pour pouvoir amener un garçon ?» Mais de là, qu'est-ce que la maman dit à sa fille de le cacher? C'est là que la fille ne va même pas oser lui dire, « Voilà, voilà. » Donc, vous voyez, donc, c'est à la maman de faire donc, un premier pas. Donc, c'est elle-même qui va commencer à dire, « Ouais, toi, là, c'est comment? Tu n'as pas commencé à avoir tes règles ?» Et celui-là, les causeries vont commencer. Là, si elle n'a jamais vu, elle va vous dire, maman, c'est quoi les règles même? Et de là, le sujet.
Le débat est lancé. Parfait. Le débat n'est pas lancé au studio Kalangou. Le débat continue. Ouais. Alors, Ismaël, tu avais envie d'ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter un truc. Je pense que le rôle du père, il est important.
Ok.
Je pense qu'on néglige ce qu'on appelle le concept d'édup dans notre société. Le concept d'édup, c'est quoi? C'est qu'on a tendance, la fille a tendance à être amie avec son papa qu'avec la maman. Et un père qui est bien ouvert et qui met en confiance sa fille, la fille lui racontera beaucoup plus de trucs qu'à sa maman. Parce qu'elle voit sa maman comme sa rivale. Et je pense que c'est sur ce truc que devaient jouer les familles. Cette relation. Et si vous allez remarquer aussi que le jeune homme, il est beaucoup plus proche de sa maman que de son papa. Et c'est comme ça qu'on doit jouer pour pouvoir aborder ce sujet. Ce sujet, c'est pas un sujet tabou, mais c'est comment créer cette relation de confiance. L'enfant, il est curieux. Il va être là et un jour, il va sortir quelque chose et c'est au papa de savoir ou à la maman de savoir comment aborder le sujet avec l'enfant pour que l'enfant puisse mieux comprendre. Parce qu'il va poser des questions pêle-mêle, mais à nous de recadrer les questions pour l'amener à lui faire comprendre certains trucs. Donc voilà un peu ce que moi j'allais ajouter par rapport à cette question.
Ah oui, merci beaucoup à cet ajout. Baza, tu veux ajouter quelque chose aussi ou bien on continue?
Non, c'est bon parce que je pense que ce qu'il a dit, c'est important par rapport au complexe d'Édipe. C'est très important parce qu'on sait que dans une famille, l'enfant donc s'entend très bien soit avec le papa ou bien avec la maman. Donc les parents doivent jouer sur ça. Si c'est la jeune fille, elle n'est pas dit forcément, il faut que c'est la maman qui doit l'éduquer par rapport à ses menstrues ou bien à tout ce qui est sexualité.
En tout cas, il faut que le débat soit lancé
voilà. Avec les parents parce que c'est les parents qui sont les premiers éducateurs de l'enfant.
Parfait. Ouais. Alors,
le budget des parents, il faut que ça, surtout les papas, qu'ils savent de leur budget s'ils ont des filles. Chaque mois, il faut enlever. Ils sont pour ça. Donc, tu as trois filles, chaque mois, il faut enlever les paquets, deux paquets au minimum pour le mois.
Ça aussi, c'est une question de budget. Ah, ben oui, la vie chère, ça ne vous dit rien, vous, la vie chère.
Non, mais la vie, elle est chère, c'est ça. C'est ça un peu.
Ah, ouais, super. Le débat continue. Baza, quelle est la bonne méthode, à votre avis, pour éduquer les enfants pour qu'elles accèdent à l'information sur les menstrues et l'hygiène menstruelle? Concrètement, qui doit faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont à la maison, à l'école et sur les réseaux sociaux. Concrètement, finalement, qui fait quoi?
Bon, moi, je pense que la meilleure méthode, c'est vraiment celle que nous souhaitons. C'est vraiment l'éducation à la maison. C'est l'éducation parent-enfant. C'est ce qui est vraiment, que, en tant qu'acteur de la société civile aujourd'hui, on fait la promotion. Donc, c'est vraiment que les débats soient créés autour de cette sexualité. Il faut que les parents et les enfants puissent discuter. Parce que si on pense que l'enfant écoute plus ses parents qu'aujourd'hui, l'information qu'il va avoir est une bonne information parce que c'est des expérimentés du domaine. Parce qu'ils ont vécu ça. Donc s'il parle à un enfant, c'est plus aujourd'hui, on pense que l'enfant a plus d'informations que lorsqu'il découvre quelque chose sur les réseaux sociaux. Parce que l'Internet aujourd'hui, on peut avoir des bonnes informations tout comme on peut avoir des mauvaises informations. Donc du coup, on ne conseille pas donc, que l'enfant soit assez scotché sur les réseaux sociaux pour s'informer, bien qu'on puisse avoir des bonnes informations. On est d'accord par rapport à ça. Mais on pense que privilégier la communication parent-enfant va jouer un rôle très capital. Maintenant, de l'autre côté, c'est vraiment l'État. Il faut que l'État puisse, de l'autre côté, accentuer donc, cette éducation-là à la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, parce que c'est un programme aujourd'hui qui, je l'ai dit, est présent au niveau du secondaire. Mais aujourd'hui, à travers le débat qu'on avait eu, vous avez vu que les règles peuvent avoir lieu dès l'âge de 8 ans, 9 ans. Et je pense qu'à l'âge, à cet âge-là, on n'est pas encore au secondaire, on est au primaire. Mm-hmm. Donc il va falloir que ces programmes-là.
Surtout à 9 ans, voilà, on est probablement au primaire. Tout à fait.
Donc il faut que ces programmes-là puissent aussi être intégrés donc, au niveau du curriculum de l'école primaire, pour que la fille, donc, à travers ses enseignants, puisse déjà être préparée donc, à des questions. Donc, si les parents ont démissionné, il y a l'information qui passe. Parce qu'avant, à travers l'économie familiale et sociale, effectivement, ces questions-là sont débattues. Mais après, donc, à un moment, ça disparaît parce que donc,
ça disparaît au primaire, tu voulais dire.
Oui, au primaire, oui, parce que les conditions, donc, on pense que l'enfant n'est pas encore assez préparé pour avoir des informations par rapport à ça à l'école primaire. Mais aujourd'hui, le cycle normal des choses fait en sorte que il faut qu'on parle à la fille, parce qu'à partir d'un certain âge, avec des habitudes alimentaires, aujourd'hui, la fille arrive à avoir d'autres situations donc, qui amènent son corps à se développer plus vite que l'on le pense.
Alors, madame, on ne peut pas terminer ce débat sans se demander les conséquences aujourd'hui s'il y a cette rupture de communication sur le sujet de la menstruation avec la jeune fille. Vous qui êtes parent et éducatrice aujourd'hui, quelles sont les conséquences qu'on peut redouter si on ne parle pas de menstruation avec sa fille?
Non, si on ne parle pas de menstruation à la jeune fille, surtout les conséquences, c'est surtout maintenant avec les maladies, les infections. Les infections. Parce que plutôt, on a tendance, dès qu'on parle de règles, ils sont deux, soit règles et grossesse. Parce que tant que s'il n'y a pas les règles, il y a la grossesse, ainsi de suite. Or, les règles, si on parle des règles, il faut parler donc de l'hygiène. Donc, s'il n'y a pas l'hygiène, parce que si elle n'a pas une certaine connaissance sur les menstruations, là, on ne peut pas respecter l'hygiène. Donc, forcément, il faut parler donc de menstruation pour pouvoir parler donc de l'hygiène. Parler à la jeune fille, donc l'hygiène qu'il faut, ce qu'il faut, même de l'alimentation, parce qu'il faut que l'alimentation aussi soit hygiénique. Il faut qu'elle compense donc les pertes de sang, etc. Donc il faut savoir, donc surtout, donc les conséquences, c'est surtout vraiment les maladies sur lesquelles donc la femme ou bien la jeune fille va être exposée.
Donc. Alors, docteur, tu as envie d'ajouter quelque chose?
Ce que je veux ajouter, c'est que nous prenons à la légère souvent cet aspect hygiénique, parce que, mais c'est vraiment capital dans la vie, parce dans la fertilité.
Pour te compléter, ce n'est pas que les grossesses. Oui. Quand on parle de menstruation, il y a aussi le côté hygiène qui peut même conduire à la stérilité,
à l'infertilité.
L'infertilité.
Et aujourd'hui, quel malheur d'entendre que je ne peux pas tomber enceinte parce que j'ai eu à négliger quelque part là quelque chose. Donc je pense que c'est important d'en débattre. C'est important de rester toujours vigilant Parce que c'est une question de vigilance. Si je ne vois pas mes règles, ah, je dois m'inquiéter et je dois savoir comment aborder le sujet avec mes parents. Mais papa, maman, voilà, je ne vois pas mes règles, ça fait tel nombre de mois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et il faut faire des investigations, chercher la solution.
Et la vigilance, voilà, est aussi au niveau des parents, pour te compléter. Voilà. Alors, Baza, tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce sujet très rapidement?
Oui, je pense que oui, par rapport aux conséquences, donc les conséquences, vraiment, il y a d'un point de vue sanitaire, donc, comme ils l'ont dit, donc que le corps va forcément donc, être confronté donc, à un certain nombre de maladies, donc dites, donc effectivement à ce manque d'hygiène. Donc de l'autre côté aussi, il y a des conséquences aussi d'autres sociales, parce que aujourd'hui une fille aujourd'hui qui ne sait pas donc maîtriser ses règles et ses cycles menstruels, donc aujourd'hui peut-être la ruser, parce que quand tu à chaque fois tu saignes, tu ne sais pas comment, donc même la société a tendance à te rejeter, parce que à travers tes amis tu ne peux pas rester avec eux parce que tu n'es pas bien propre. Donc dès que tu rentres, tu peux faire l'objet donc de certains rejets, donc de par rapport aux personnes avec qui tu vis.
D'accord. Alors, avant de nous quitter, pour celles qui, par hasard, écouteront cette émission, comment leur expliqueriez-vous, madame, cette question est principalement à vous, la manière dont il faut procéder pour être propre, prendre soin d'elle-même? Comme le dit Baza tout de suite aujourd'hui, c'est un peu, tu deviens un peu la risée de tes camarades si on voit que toi, à ton niveau, tu ne réussis pas à gérer.
Oh, très bien. Ça aussi, ça revient toujours sur le cycle menstruel, sur la maîtrise du cycle menstruel. Donc, il faut que la fille arrive à connaître son cycle. Donc, de savoir quand est-ce que je vais voir mes règles, quand est-ce que je vais les revoir les mois prochains. Donc, comme ça, elle va être prête à recevoir les règles. Parce que c'est ça, ce qu'il vient de dire. Si la fille ne sait pas quand est-ce qu'elle va revoir ses règles, c'est un problème. Donc, les règles peuvent venir à tout moment. Surtout maintenant, il y a certaines circonstances, certains facteurs encore qui peuvent soit, amener les règles plus tôt ou bien les retarder. Donc, surtout, que ça soit, il y a l'émotion, il y a le voyage pour certains, il y a l'alimentation, donc il y a des stress, donc tout ça là. Donc, il faut tenir compte de ça.
La dernière question de ce forum, avez-vous l'espoir qu'un jour viendra où les débats sur la menstruation seront vus d'un bon œil dans la société nigérienne? Avez-vous l'espoir qu'un jour on parlera de menstruation sans pour autant paraître vulgaire ou bien sans pour autant être taxé de quelqu'un qui veut venir déformer la société? Je commence par vous.
Je pense que c'est possible. Il suffit juste qu'on accepte que les choses changent et qu'on doit aller à l'information. Puisque c'est une question de mentalité. Et si les mentalités changent, je pense que cela peut aller. Et je pense que cette question de menstrue, elle a beaucoup de conséquences, même sur le plan religieux. Je pense que les parents négligent, mais je pense qu'ils ont une forte responsabilité, parce que vous devez apprendre à la fille quand est-ce que je dois reprendre la prière, comment est-ce que je dois reprendre ma prière. Une femme qui vient de finir son cycle menstruel ne va pas se mettre à prier comme celle qui n'a pas eu son cycle. C'est pas la même chose. Et tout ça, je pense que on doit intégrer tout cela dans des programmes religieux, dans les programmes scolaires et aussi dans les programmes sociaux et sans oublier dans la famille.
Merci beaucoup, Baza. Avez-vous espoir qu'un jour on parlera de menstruation sans pour autant paraître vulgaire?
Effectivement, je pense qu'on a toujours l'espoir, parce qu'en tant qu'acteur de la société civile, c'est notre rôle au quotidien. Donc, parce qu'on pense que à travers le plaidoyer aujourd'hui qui est fait par les acteurs de la société civile, à travers donc les activités aujourd'hui terrain que ces acteurs l'amènent, donc nous pensons que la question, donc aujourd'hui les stéréotypes qui sont mis donc autour de cette question sont en train d'être levés. Donc on pense que dans un avenir très proche, peut-être ces questions là donc tout comme d'autres questions en lien avec la sexualité ne seront plus tabous donc dans notre société, parce qu'on pense que c'est une question d'actualité.
Alors il y a de l'espoir. Alors madame, vous au début de cette émission, vous nous avez dit les choses ont évolué selon vous. Alors, est-ce qu'on peut aller loin?
Oui, on peut aller loin. Okay. En tout cas, les choses ont évolué, parce que moi, je vois, en tout cas, à l'école, vous voyez les garçons, comment ils accompagnent même ces jeunes filles quand ils sont en état de menstruer. Donc, parce que vous allez voir, j'ai vu, en tout cas, de mes propres yeux, un garçon, un jour, il sortait du terrain, il y avait une fille qui portait la chemise d'un garçon à la hanche. J'ai dit, c'est quoi cette manière de... ce style-là? Elle m'a dit, Madame, c'est parce qu'elle ne veut pas parler. Et c'est à ce moment une de sa voisine qui me dit, ah, madame, c'est qu'elle a taché sa jupe. Et c'est pour ça qu'un tel lui a donné sa chemise. Vraiment, moi, j'ai apprécié. J'ai dit, ah là, c'est bien. Là, tu es gala, là, tu serais un bon père.
Ah ouais. Parce que là, tu sais, c'est avec ce... Oui, et c'est avec ces bonnes notes que nous allons clore le débat de ce soir. Et bien évidemment, c'était sur comment parler des menstruations sans aller contre les valeurs morales. Madame Arimi Zouera, parent et éducatrice, était une de nos invitées. Idé Baza Abdourahmane, acteur de la société civile et Adokon, Pacha Ismail et Sodong sont mes invités, étaient bien évidemment mes invités de ce soir. La technique est gérée par Ayouba Mustapha, la vidéo est assurée par Seni Isaka. Amis auditeurs et auditrices, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir chez vous.